l'espace cycle supérieur des portes ouvertes de l'UDM. C'est l'occasion parfaite pour poser vos questions aux professeurs et aux étudiants. On vous attend dès 9h au pavillon 3200 Jean-Briand.
Allô tout le monde, il est présentement midi, vous êtes sur les ondes du CISM 89.3 La Marge, la radio de la montagne de l'UDM, et vous écoutez le 7e épisode de Bulle d'écoute. On est déjà à la mi-saison gang. Merci à tout le monde d'être avec nous, je suis Anne-Lie, votre animatrice ce midi. Encore une fois, je suis entourée de mon équipe de journalistes et co-animateurs, Lauriane, Maïna, Mélissa et Tristan. Comment ça va la gang?
Allô tout le monde!
Ça va bien.
Pour ceux qui auraient manqué les premiers épisodes, même si on est à la mi-saison, avec nous, c'est l'actualité en toute intimité. Donc, on se réunit pour échanger, explorer, débattre, revisiter des sujets d'actualité. On vous fait découvrir nos trouvailles et on en discute tous ensemble. On incarne la voix d'étudiants finissant au certificat en journalisme de l'UDM. Alors, tous les mardis, on s'emporte du micro du CISM. D'ailleurs, si vous êtes curieux ou curieuse de radio, sachez que d'ici le 3 novembre, CISM fait un appel de projet. Si vous voulez venir rencontrer l'équipe, d'ailleurs, ce dimanche, aux portes ouvertes, c'est de 10h à 16h. Alors, inscrivez-vous, on veut vous entendre. Pour des infos supplémentaires, allez sur le site du cism.ca. Bon, aujourd'hui, on débute dans la bulle environnement, ensuite les fake news, le lien entre la littérature et le cinéma, puis on termine avec un top 5 d'actualité insolite de la semaine. Alors, entrez dans notre bulle! Let's go, on commence! Moi, j'ai vu hier soir, ça a été confirmé par Radio-Canada, que 15 ans après l'annonce de sa construction, la première usine de compost à Montréal a enfin ouvert ses portes lundi dernier. Elle est située dans l'arrondissement de Saint-Laurent sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest et elle a été construite par la multinationale française Veolia pour 169 millions de dollars. C'est gros. Elle est neuve. Mais active depuis déjà quelques mois pour quelques mises au point. L'usine peut traiter jusqu'à 50 000 tonnes de matière organique annuellement, incluant des restes alimentaires et des résidus de jardin. Radio-Canada compare ça à 12 piscines olympiques remplies de compost. C'est énorme. Cette usine va produire jusqu'à 20 000 tonnes de compost de qualité A. Qualité A, c'est-à-dire que c'est un très bon compost à très faible niveau de contamination, sans restriction particulière. Par contre, ça engendre beaucoup d'argent. Donc, la Ville de Montréal confirme qu'elle va pas ingérer plus d'argent dans le projet parce qu'au fil des années, il y a eu des retards et des dépassements de coûts. Ça fait monter en flèche la facture de l'usine de Saint-Laurent qui atteint aujourd'hui, attention, 372 millions de dollars depuis quelques années. Par contre, les avantages, c'est quoi? C'est que la mairesse de Verdun confirme que c'est utilisable pour l'agriculture et les parcs de la ville. Cette nouvelle installation réduit de manière importante les distances de transport des matières résiduelles qui peuvent s'étirer jusqu'à des centaines de kilomètres, à peu près 200. Il y a presque 25 % de la population de Montréal qui verra leur matière organique traitée localement. Est-ce que le voisinage doit s'en faire pour les odeurs? Non. La population n'a rien à craindre parce que le système de l'usine est complètement étanche et automatisé, ce qui réduit énormément les odeurs. Comment ça marche? Le processus, ça dure environ de 8 à 9 semaines. D'abord, les matières résiduelles sont déchargées dans l'usine, broyées, nettoyées et décontaminées pour après être transformées dans un convoyeur. Puis, il y a un système qui permet de relier les petites particules de plastique pour agrandir le compost sans restriction et sans gaspillage. Après 3 semaines dans ces tunnels de décomposition aérée et 4 semaines de maturation, la matière organique se transforme en un compost d'haute qualité, de qualité A, comme on disait tantôt, et sans odeur. Avec cette inauguration de compostage, la mairesse Valérie Laplante de Montréal espère encourager une plus grande participation de compostage de la ville. Actuellement, il y a juste 35 % des Montréalais qui utilisent des bacs bruns et qui participent régulièrement. D'ici 2025, la ville vise atteindre un taux de 60 % pour répondre à la problématique des sites d'enfouissement qui se remplissent rapidement, notamment à Montréal, qui sera saturé d'ici 2029. Je rappelle ce qui est compostable pour la Ville de Montréal. Les résidus alimentaires comme les fruits et légumes, pâtes, riz, pain, céréales, viande, poisson, les œufs, coquilles, les œufs en petite quantité aussi, les produits laitiers, pardon, les résidus de café, les sachets de thé. Pour ce qui est résidus de jardin, les feuilles mortes, les herbes coupées, les branches, les brindilles en petite quantité et les matières organiques comme les copeaux de bois non traités, les serviettes de table en mouchoir en papier, le papier carton non plastifié, etc. Exemple, une boîte de pizza sans gras. C'est important de dire que le plastique, le métaux, les verres, les produits chimiques ou résidus non organiques sont pas compostables. Et il faut compacter dans des sacs bruns, non en plastique. Guys, on composte, c'est important. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui compostent?
Oui, j'essaie.
À petite dose, j'essaie, mais dans le frigidaire, tu sais, ça prend beaucoup de place dans le congélateur, là, le sac de compost, je sais pas si tu fais ça, mais...
Ouais, moi aussi, je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Justement, parlant d'environnement, on commence en discutant d'Hydro-Québec et la dilapidation d'électricité au Québec avec Lauriane.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Oui, Annie, tu disais 15 ans pour attendre le premier centre de compost, c'est énorme. Et pendant ce temps-là, on a Hydro-Québec qui perd pas de temps pour dilapider des blocs d'électricité. Hier, le journaliste Thomas Gerbet pour Radio-Canada, justement, il rapportait que Hydro-Québec a loué un bloc d'électricité de 307 MWh à l'entreprise allemande HY2Gene à Baie-Comeau. C'est une entreprise étrangère qui produit de l'hydrogène vert destiné à la fabrication d'explosifs pour les mines. À savoir que 5 MW, ben, ça correspond à la puissance électrique requise par le Centre Bell. Donc, c'est l'équivalent de 61 Centre Bell en tout. C'est énorme. C'est le deuxième projet qui consomme le plus au Québec après les 354 MW alloués à Nordvolt l'an dernier, l'usine de batterie. Ça, c'était l'équivalent de la consommation de toutes les résidences de Longueuil qui avaient été allouées. Donc, c'est majeur. C'est des projets vraiment majeurs. Et ça fait réfléchir parce que, de l'autre côté, t'as Hydro-Québec qui crie sur tous les toits que le Québec va manquer d'électricité et qu'il a besoin de doubler sa production d'ici 2035. Puis ça, ben, ça implique des projets d'infrastructures qui met à rude épreuve notre environnement. Puis on justifie cette augmentation par la transition énergétique puis la décarbonisation. Sauf que les entreprises étrangères à laquelle on accorde ces quantités énorme d'énergie, ben, ils n'ont aucune obligation légale de vendre leurs produits sur le sol québécois, de un, puis techniquement, ni de contribuer à la décarbonisation du Québec. Donc, ça fait réfléchir, puis évidemment, on peut aussi ajouter que ben, ça crée des emplois, mais quand tu regardes la situation avec Nordvolt en ce moment, qui éprouve des difficultés financières, puis qui sont obligés de fermer certaines de leurs usines partout dans le monde, puis qu'ici au Québec, le projet avance pas, ben ça pose un problème de gaspillage de l'énergie premièrement parce que toutes ces on n'a pas prévu en fait, le gouvernement n'a pas prévu qu'est-ce qu'on fait si le projet avance pas. Puis là toute cette électricité donnée, ben elle est pas utilisée. Donc est-ce qu'on la redemande, est-ce qu'on met des pressions sur la compagnie, on met des restrictions, mais on le sait pas encore. On n'a comme pas été prêt à ce type de dilemme. Puis c'est insurgent parce que ça insurge, puis c'est une bonne chose parce que ça nous donne l'opportunité de nous arrêter pour nous questionner sur la course à la prospérité à tout prix que le Québec a entrepris. On a beaucoup de ressources, on est chanceux, c'est une opportunité, mais est-ce que les Québécois en gagnent vraiment de cette course à la prospérité, pardon? J'ai eu la chance d'en discuter dans une entrevue en début d'année avec Jean-Pierre Finet, un analyste en régulation économique de l'énergie, concernant le plan 2035 d'ailleurs de Hydro-Québec et que toutes ces planifications-là d'infrastructures. On l'écoute.
En ce moment, c'est de l'improvisation. C'est une planification débridée des ressources qu'on a. Le gouvernement voit la crise climatique comme étant une opportunité d'affaires d'abord et avant tout. On se dit qu'on va réserver 75 % de la future énergie pour la décarbonation, puis 25 % pour le développement économique. Sauf qu'on commence par le développement économique.
Exact. Donc, comme il dit, c'est vraiment beau de dire 75 % pour la décarbonisation. Waouh, c'est beaucoup. OK, on s'en va dans la bonne direction. Mais il n'y a rien qui oblige le gouvernement à prioriser ces 75 %-là puis de pas commencer avec le 25 %, puis à la fin de l'année, se dire « Oh, oups, finalement, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs. » Tu sais, c'est la prospérité économique prive et distrait le Québec de la volonté politique nécessaire à la sobriété énergétique. Tu sais, c'est ça qui va rajouter après. C'est qu'on oublie, on met de côté que prendre soin de l'environnement, c'est aussi de réduire notre consommation. C'est pas juste de la transformer. C'est pas juste ça le but. Puis, cette énergie électrique-là supplémentaire vient tout simplement, en fait, s'ajouter à notre surconsommation plutôt que de remplacer les énergies fossiles. Les énergies fossiles, en ce moment, ils vont rester là. C'est juste qu'on rajoute l'électricité propre en plus de tout ça. Donc, c'est un peu contre-productif, en fait.
Ça va coûter excessivement cher. Et à date, le gouvernement et Hydro-Québec se sont bien gardés de nous dire combien ça va coûter et qui va payer. Faut pas juste faire une transition d'une source d'énergie à une autre. Faut vraiment, là, revoir notre mode de consommation. le faire sans avoir à harnacher d'autres rivières si le ministre arrête de dilapider des blocs de puissance ferme comme il le fait depuis un bout de temps.
Bon, donc vous voyez un peu, son avis est assez ancré. J'ai aussi la chance de parler avec Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à la Polytechnique de Montréal. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui et lui nuance un petit peu le propos en disant que, à son avis, la prospérité est importante. On peut pas l'ignorer, on peut pas juste avoir une vision focalisée sur l'environnement. C'est une réalité qu'il faut prendre en considération. On l'écoute.
Ce contexte mondial où tout le monde augmente sa production d'électricité. C'est ça l'efficacité énergétique, les gains les plus importants, c'est en électrifiant. Mais pour ça, il faut faire plus d'électricité. Donc, il y a une confusion totale des genres dans les gens qui parlent d'efficacité énergétique, pour qui l'efficacité énergétique se résume à dire qu'on consomme trop d'électricité, qu'on consomme trop de gaz, c'est pas grave, de pétrole, c'est pas grave, puis qu'on n'atteigne pas nos objectifs climatiques, c'est pas la priorité. On n'est pas les seuls là-dedans, là. Mais on est incapable, je dirais avec le gouvernement actuel encore plus, de se détacher de cette idée que la seule façon d'attirer des investissements, d'être compétitif au Québec, c'est en vendant nos ressources naturelles pas chères.
Donc, selon lui, c'est inévitable de devoir augmenter la production juste pour suivre le rythme mondial. Cela dit, pour lui, le problème, c'est pas tant le fait qu'on produise plus, c'est qu'on la vende si peu cher à d'autres, puis que ce soit la population en fait qui doivent compenser pour ce déséquilibre budgétaire.
C'est épouvantable. On n'est pas, c'est pas comme ça. Moi, je trouve qu'on va dans la mauvaise direction parce que il faut amener les citoyens avec nous. Pas leur mentir, les mener en bateau, parce qu'à un moment donné, ils ne croiront plus rien. Là. Mm-hmm. Et c'est ça l'enjeu. La façon dont on a géré Northvolt, c'est un désastre. Parce qu'on enlève la confiance des citoyens, puis des grands projets, là, on va en avoir en masse pour tirer des lignes, pour faire toutes sortes d'affaires. Si à chaque fois, les citoyens disent « Est-ce qu'on a encore changé les règles? Est-ce qu'on fait pas les études? » Comment tu peux avoir confiance? Donc, on se tire dans le pied, dans notre capacité d'aller de l'avant à la vitesse à laquelle il faut aller, parce qu'il va falloir aller vite.
C'est très marquant ce qu'il dit, puis je pense qu'il y a une grande part de vérité, sauf que quand il dit « il va falloir aller vite », moi je me demande « aller vite pour aller où? » C'est sûr qu'on a beaucoup de ressources, comme je disais, c'est une opportunité, surtout en ce moment, on sait que... Oui, vas-y.
Non, mais c'est vraiment intéressant, mais moi, j'en avais entendu beaucoup parler en ce moment de Northvolt, mm-hmm. de tout ce qui se passait, puis j'avais même entendu que Hydro-Québec voulait devenir une compagnie privée. Potentiellement. Ce qui est vraiment pas, tu sais, à la base, Hydro-Québec avec René Lévesque, l'énergie renouvelable, c'était vraiment pour le Québec, pour notre économie en nous.
Mais oui,
donc,
mais...
Donc, je suis comme... C'est confusant de voir où ça s'en va, tu sais, c'est comme...
Il y a tellement de changements, puis en plus, on sait que la dette autochtone de 250 ouais. millions qui rajoute au malaise en ce moment de toutes les... Mais on faut pas trop être dur, Michael Sabia, le PDG d'Hydro-Québec, pardon, il fait des avancées quand même. Là, il a ouvert la discussion avec les Autochtones. Il est à l'écoute quand même, on a l'impression, de la population. Okay. C'est juste que ça a un coût environnemental, toutes ces infrastructures-là. Et souvent, c'est fait sur les territoires autochtones aussi. Ça, on en parle peu, mais c'est pas après de Montréal, hein, les barrages.
Même Northvolt, la population dans la Rive-Sud, c'était comme des territoires vraiment importants pour nous, pour les gens aussi qui habitent là, pour Longueuil, parce que c'est des territoires humides. Puis il disait que ça allait vraiment impacter l'écologie aussi.
Oui. Puis comment ils ont réussi à convaincre la population, en fait, c'était pour les emplois.
Ouais.
Puis là, aujourd'hui, actuellement, on a un retour. Puis là, on sait que Northvolt est en pause en ce moment parce qu'il y a des problèmes financiers. Fait que c'est vraiment frustrant pour la population qui subit tous les retours négatifs sans profiter des retours positifs. À savoir qu'Hydro-Québec, malgré cette hausse le double de ce qu'il produit déjà, garantit un plafond de 3% pour les ménages québécois et de 3,3% pour les industries, ce qui peut rassurer, sauf qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il compense ce déséquilibre budgétaire. Puis apparemment, ça va être les petites entreprises, les PME et les commerçants qui vont compenser. Ils vont voir une hausse de plus de 5% sur leur facture. C'est énorme et c'est frustrant quand on sait qu'il y a des entreprises étrangères qui ont des prix, mais c'est le dollarama. C'est ça qu'il disait Jean-Pierre Finet, c'est le dollarama de l'électricité. Puis à côté, nos petites entreprises à nous qui essaient de s'en sortir, ils vont payer la totale. Puis pendant ce temps-là, en plus, on culpabilise les ménages sur leur consommation d'énergie. On vous dit fermez vos lumières, faites attention, c'est pas utiliser trop d'eau, réduisez vos douches. Puis à côté, on a des énormes qui gaspillent leur bloc d'énergie. Donc c'est frustrant, c'est frustrant. Puis d'ailleurs, le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, estime que l'ancien ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, aura accordé justement trop aux sociétés étrangères au détriment des entreprises d'ici. Donc, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Il y a quand même une ouverture sur le sujet.
Merci, Lauriane. C'est vraiment important de prendre conscience de cette consommation énergétique, puis aussi de sa propre consommation. C'est vraiment un tout global. On remercie également à Jean-Pierre Finet et à Normand Mousseau de leur partage. Après la pause, on aborde la corrélation entre la littérature et le cinéma. Pour l'instant, on écoute La nuit est une panthère de Les Louanges. À tout de suite sur les ondes du CISM.
La porte, tirer les volets, attendu la chute du quatrième mur, mur sous les couvertures de la toile, les galaxies et les Bermudes, rafraîchir la page où l'on s'est retrouvé, le soir du carnage, les ambulanciers. Parer les pluies dorées de l'orage. Une panthère dans la chambre, devant la caméra, tu danses. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance de gagner mon passeport entre tes jambes. Une panthère dans la chambre, devant la caméra, tu danses. Mes fleurs, j'ai remarqué, on les voit dans le cadre de tes préférés. C'est vrai qu'ils sont belles, les gens qui ont mois de mai, et le rideau se lève, le show recommence.
C'était La nuit est une panthère de Les Louanges. Son album sorti en 2018, La nuit est une panthère, fait encore fureur sur toutes les plateformes. Vous êtes de retour sur Bulle d'écoute sur les ondes du CISM 89.3, la radio francophone de la montagne. Il est présentement 12h18. On discute maintenant de la corrélation entre la littérature et le cinéma avec Mélissa et le comédien et auteur Henri Chassé.
Oui, donc j'ai eu la chance de recevoir le comédien Henri Chassé en studio cette semaine, où est-ce qu'on a pu aborder plusieurs thèmes qui étaient vraiment intéressants sur le cinéma et la littérature, entre autres, avec son deuxième roman, Le Trophée, qui est sorti en librairie cet automne. Henri Chassé, il a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général en 2008 pour son recueil de poésie « Morceaux de tempête ». Il est également un visage vraiment connu du grand public grâce à ses nombreuses apparitions à la télévision, où il a remporté le prix Gémeaux en 2002 pour sa performance dans Le Monde de Charlotte. Il a aussi marqué de son empreinte plus d'une centaine de productions théâtrales, aussi bien dans des créations que des classiques. Puis là, c'était vraiment intéressant parce qu'on parlait justement de la littérature et le cinéma et de comment ces deux médias connexes sont différents. Puis il y avait plusieurs points qu'il a abordés qui étaient vraiment intéressants, comme le rapport à la solitude dans l'écriture. Puis ben, je vais vous laisser écouter cette entrevue de 20 minutes où j'ai vraiment pu aller en profondeur. Donc on
c'est à quel moment que tu t'es dit genre ok, je me lance?
À quel moment je me lance? J'ai arrêté d'écrire pendant un bout de temps. J'étais pas capable d'écrire de la poésie en fait. Puis j'ai demandé à ma blonde de dire de me donner des thèmes, tu sais. Mm-hmm. Bon. J'ai dit, ça va me sembler. Alors, j'ai commencé à écrire des petits textes, des poèmes. Puis, à un moment donné, on est allé au théâtre, puis on est sorti, il faisait froid, puis elle a dit, j'aurais dû mettre un chapeau. Et je suis parti avec cette phrase-là, j'aurais dû mettre un chapeau, qui est devenue la phrase qui a donné lieu à un des chapitres de Ciel parallèle, où c'était un homme qui était sur le bord de près d'un chalet, puis mm-hmm. tout a découlé de ça, dans le fond. Le personnage revenait, et puis c'est comme si, à cause de la fréquentation des personnages au théâtre, mm-hmm. qui a pu probablement permettre à ce que je construise des personnages comme ça.
Puis ton inspiration, est-ce que t'as aussi genre des auteurs qui t'inspirent plus, ou des
ben, oui.
styles disons, qui t'as suivi?
Ouais. Très bonne question. J'aime beaucoup, mais j'en parle dans le dernier roman, là, de Patrick Modiano, puis mm-hmm. Murakami aussi, à cause du côté fantastique qui peut, comme tu as des origines sud-américaines,
oui, t'sais, Mexique.
Le réalisme magique, là, qu'ils appellent, c'est-à-dire que ouais. tout à coup, en plein milieu de la réalité, c'est plus réel, tu sais. C'est ça que ça, je trouve ça très, très intéressant. Mais aussi, Modiano, ben là, c'est le style.
Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme une certaine liberté que tu peux avoir dans l'écriture, qu'il y a peut-être pas quand tu fais du théâtre ou du cinéma, mais en même temps, ce sont deux médias totalement différents, mais tu sais, il y a peut-être plus une facilité de laisser aller dans l'écriture.
Ben, c'est sûr. Il y a une grande liberté au début, puis après ça, à un moment donné, il y a comme
une structure, genre, qu'il faut avoir.
Ben, à un moment, moi, je vais t'avouer franchement que moi, elle vient au fur et à mesure. Mais à un moment donné, elle apparaît. Il y a plein de choix qui doivent se faire aussi, là, qui sont des choix qui sont contraignants, des choix de temps de verbe, est-ce que c'est au jeu, est-ce que mm-hmm. c'est un narrateur omniscient. Mais pour répondre à ta question, très bonne, mm-hmm. C'est évident que, par exemple, le cinéma, c'est d'énormes contraintes, mm-hmm. énormes, en premier, financières.
Ouais, financières, certainement.
De disponibilité, de lieu, d'horaire, etc. C'est extrêmement complexe. Tandis qu'un roman, c'est toi qui les mets, à un moment donné. Évidemment, il y a des deadlines qui sont importants. L'éditeur, à un moment donné, mais moi, j'ai repoussé, à un moment donné. Il y avait comme un projet que ça sorte en 23. Puis mm-hmm. j'ai dit non, ça marchera pas.
Mais il y a quand même une certaine pression, ou c'est quand même.
À partir du moment où, vers la fin, là, ouais. ça soigne. Puis tu sais aussi qu'il y a un moment, un peu comme au cinéma, ils appellent ça le lock. T'as fini le montage, mm-hmm. tu peux plus y toucher, là. Ben il y a un peu ça avant l'impression, c'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, ouais. les changements deviennent bien compliqués, là.
Mais toi, t'as fait affaire avec les éditions Mains Libres, ouais. c'est ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une solidarité entre artistes, entre nouveaux auteurs, qui peut-être
ouais,
au cinéma aussi, mais différemment?
Oui, c'est sûr qu'on se voit seulement dans les parties ou les lancements, tu sais, on se lit mutuellement, tu sais, on s'envoie des messages, tout ça, mais c'est sûr que c'est complètement différent de mm-hmm. du théâtre où c'est un travail d'équipe. Les éditions aussi, c'est un travail d'équipe, mm-hmm. eux autres. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de solitude c'est pour ça que, tu sais, de pas avoir commencé tôt, c'est peut-être à cause de ça, parce que j'avais mm-hmm. besoin d'autres choses. J'admire les gens qui font ça toute leur vie en même temps. Ben, j'admire. C'est-à-dire que ça m'impressionne.
Donc, faut être solitaire un peu, tu penses?
Ben, oui, c'est quand sûr. Même. C'est sûr. Puis, tu sais, comme, pour être un auteur qui produit toute sa vie, faut que tu dises non beaucoup. Tu sais, souvent, mm-hmm. à un moment donné, tu...
C'est vrai.
Mais ça, c'est une maudite bonne excuse pour pas aller à des places que tu veux pas.
Ouais, c'est certain. c'est certain. Maintenant, j'aimerais qu'on parle plus de tes romans que tu as faits. Donc, oui. Le premier, Ciel parallèle, mm-hmm. c'était beaucoup de personnages. Mais le deuxième, mm-hmm. est-ce que c'est un petit peu plus personnel parce que ça parle d'un acteur qui est en aide de l'industrie, qui décide de partir vivre une découverte de soi en dehors de son succès, de tout ce qu'il a connu?
Il y a des choses de moi, c'est sûr, plus mm-hmm. peut-être que... Non. Est-ce qu'il y en a plus que dans l'autre? Parce que l'autre, le personnage de Thomas achète un chalet
ouais.
sur le bord du fleuve et là, il va découvrir toute une partie de son passé. T'sais. Et il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec moi là-dedans. Mais l'autre personnage, évidemment, oui, c'est un acteur, celui mm-hmm. du trophée. Oui, je pense que j'ai mis plus de moi là-dedans, mais c'est pas dans le personnage en particulier. C'est des fois dans ce personnage-là, des fois dans un autre. Mm-hmm. En fait, ce qui m'intéressait, c'était... Parce que tu dis fatigué de l'industrie, mais il sait même pas si c'est ça. Il mmh. sait juste qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Mmh. Puis ce qui me fascinait, c'est que quand un acteur décide d'arrêter, tout le monde se pose la question, mais pourquoi, tu sais, alors que si ouais. c'était un professeur à l'université ou un, tu dis, bon, ben, il veut faire d'autres choses.
Mais c'est vrai que quand un acteur termine souvent, on se dit, on le voit plus,
ce qui est drôle, c'est paradoxal parce que dans mon temps, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était convaincre sa famille, c'était un sport de haut niveau. Oh. Tu veux dire, il disait, c'était comme si t'allais décider de, ça avait pas de bon sens que t'allais vivre dans un kibboutz.
Mm, ouais.
Il y avait des orientations qui commençaient. Puis j'ai dit, mais le théâtre, il dit, bon, c'est à moins d'être un génie, oublie ça. Puis il connaissait rien, personne connaissait les écoles. Tu sais, c'était, je parle en région. Là.
Ouais.
Moi, je viens de l'Outaouais. Puis. Comme toi.
Ouais.
Et c'est un paradoxe de dire que d'un métier où tu as tant de misère à convaincre du monde, que quand tu voudrais en sortir, les gens font, mon Dieu, comme mm-hmm. si ça représentait quelque chose pour eux, une espèce de rêve.
Ouais. Ouais, ouais.
Si on voit ça, tu sais, tout le Hollywood, tout ce que ça représente.
Le glamour,
oui, tu sais, puis le mythe, puis ouais. C'est même pas une critique de le livre, c'est juste un constat mm-hmm. de quelque chose qui est fascinant.
Avant de se quitter, est-ce qu'il y a un passage que t'as préféré écrire ou que tu préfères
c'est une bonne question.
De ton roman ou de tes romans, parce qu'il y en a deux.
Ah oui, c'est ça. Ben, il y a dans le premier, il est dans un bar avec une femme qui on va découvrir qui c'est, leur relation. Et il va aux toilettes, puis il se rend compte de tous les gens qui sont sur leur écran, sur leur téléphone, qui regardent le hockey. Et tout à coup, il voit au loin, près des toilettes, en arrivant, un homme qui regarde dans le vide. Alors, normalement, on se dirait, ah, lui, il a pas l'air de filer comparé aux autres. Mais alors que, dans le fond, il fait face au vide. Puis j'étais content de ce bout-là. Puis dans le dernier, je suis très heureux de... Il y a deux personnages qui s'appellent Don et Ron. Mm-hmm. J'étais parti dans l'idée que ça allait être une relation difficile, qu'elle allait demander de l'argent pour la guitare que l'autre a laissée. En tout cas, c'est compliqué. Okay. Là, mais et ça s'est complètement transformé. Donc, je me suis laissé surprendre par les personnages.
Donc, tu t'inspires quand même de la vraie vie un peu aussi. Ça.
Oui.
On n'a pas parlé, mais oui.
Oui, oui, mais avec une liberté. Tu sais, je me dis, mettons qu'il arrive telle affaire. Tu sais, c'est l'imagination qui marche tout le temps.
Mm-hmm.
Puis aussi, je suis allé, parce que ça se passe dans un voyage vers Nashville, puis je suis allé aussi le faire.
Oui, c'est ça.
Mais j'avais commencé à écrire avant, puis aller confirmer des choses, puis trouver d'autres affaires, des lieux, de toutes sortes d'affaires.
Ben, en tout cas, on invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir tes deux romans, puis à aller lire ça, Ciel parallèle et Le trophée.
Puis s'il n'est pas en librairie, vous commandez. Hein, vous savez que tout le monde peut faire ça. Ouais.
Aujourd'hui, en ligne, tout est possible.
Oui.
Donc, c'est ce qui met fin à cette entrevue. Merci beaucoup, Henri.
Merci beaucoup.
Donc, c'était vraiment un privilège de le recevoir ici. C'est un auteur qui aime beaucoup la complexité chez les personnages, comme il le dit, qui aime beaucoup le rapport aussi au réel. Puis c'est pas la même chose au cinéma aussi. Comme il dit, il y a une grande liberté financière dans l'écriture. Il y a un aspect aussi beaucoup avec la solitude. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui écrivez ou qui aimez la littérature.
J'aime la littérature, mais j'écris pas. Mais j'adore la lire.
OK.
Juste quand j'ai besoin de remettre les esprits au clair.
Ouais, c'est ça. Mais c'est très libérateur aussi.
Ouais.
Donc, c'était vraiment cool de le recevoir. On lui dit encore merci. Puis pour ceux qui sont intéressés à son deuxième roman, Le Trophée, il est disponible dans toutes les librairies au Québec où vous pouvez le commander en ligne aussi. Donc, on lui dit merci encore une fois.
Merci à toi aussi, Mel. Surtout, merci à Henri Chassé d'avoir pris le temps d'être venu dans les studios du CISM. Au retour, on aborde les fake news avec Tristan. On part pour une courte pause où on écoute Les Échardes de Charlotte Cardin. À tout de suite.
changer si on jouait bien les dés. On s'est laissé faner sous les ciels bleus de nos yeux doux. On se lasse, nos cœurs se nouent, puis on s'oublie et ça part. Fenêtre de nos ennuis, on a vu s'enfuir nos vies et on a couru après, évidemment sans succès.
C'était Les Écharpes de Charlotte Cardin, une grande artiste québécoise. Oh. Une grande artiste québécoise qui est présentement en tournée européenne jusqu'au 6 décembre. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, ce midi. Il est midi 31, vous écoutez Bulle d'écoute sur les ondes CISM, la radio officielle des étudiants et des étudiantes de l'Université de Montréal. Bon, maintenant, parlons fake news en vue des élections américaines et l'ère des réseaux sociaux avec Tristan.
Oui, alors aujourd'hui, j'aimerais tous attirer votre attention sur un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens, journalistes, internautes ou élus, les fake news. La déformation à l'ère des réseaux sociaux s'impose aujourd'hui comme l'un des plus grands défis pour notre démocratie, surtout à l'approche des prochaines élections américaines de 2024. Je ne vise personne. Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais l'ère numérique, surtout des réseaux sociaux, a démultiplié leur portée, leur vitesse de propagation. Selon une étude menée par le MIT en 2018, les fausses informations circulent 6 fois plus vite sur Twitter que les informations variées. Je ne sais pas si vous utilisez Twitter, maintenant X, j'utilise beaucoup et peu importe où vous vous baladez, vous tombez sur des histoires, des informations. Des fois, ça vole très, très haut. Donc, c'est ça, Twitter, Facebook ont ouvert un espace de débat particulièrement très vaste. Ils ont également fourni énormément de fausses nouvelles et une tribune inédite justement pour les fake news. En 2024, nous sommes tous des consommateurs d'informations, qui que nous soyons sur les réseaux sociaux. Environ 53% des Américains s'informent principalement via cette plateforme. Ce chiffre impressionnant montre à quel point l'accès à l'information s'est démocratisé, mais il met aussi en lumière un danger majeur, la qualité de ces informations. Les algorithmes des réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion des fake news. Ces plateformes sont conçues pour maximiser l'engagement des utilisateurs, ce qui favorise les contenus sensationnels, souvent au détriment de la véracité des faits. Par exemple, une étude de l'université de Stanford a révélé que les utilisateurs de Facebook avaient 3 fois plus de chances d'interagir avec une fausse nouvelle qu'avec un article factuel lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Pareil, moi, quand je regarde et je check Twitter, c'est souvent... il faut très souvent que je vérifie mes sources pour pouvoir m'informer sur la véracité du fait que je regarde. L'influence des fake news sur les élections est bien documentée, très très bien même. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, des millions de personnes ont été exposées à des informations fausses. je pense à Donald Trump notamment, provenant d'acteurs étrangers également, cherchant à manipuler l'opinion publique. Un exemple frappant, une fake news prétendant que le pape François avait apporté son soutien à Donald Trump avait été partagée près d'un million de fois, créant une onde de choc dans l'électorat catholique. Puis c'est assez impressionnant parce que vous pouvez le voir et retrouver cet article qui est quand même ultra bien fait. Mais cette information est fausse. Cette menace est encore plus préoccupante à l'approche des élections de 2024. Comme l'a souligné le chercheur en désinformation François-Bernard Hugues dans une récente interview, les fausses nouvelles sont devenues des armes politiques. Leur efficacité réside dans leur capacité à polariser la société et à semer la confusion dans l'esprit des électeurs. La question qui se pose alors est pourquoi, malgré la multiplication des outils de vérification, croyons-nous encore aux fake news? Les raisons sont multiples, mais plusieurs études soulignent l'impact des biais cognitifs. Nous avons tous tendance à privilégier des informations qui confirment nos croyances existantes, un phénomène appelé biais de confirmation. Pareil pour les utilisateurs de Twitter. Souvent, moi, je suis énormément de... vu que je suis supporter de soccer, je suis énormément de choses là-dessus. Puis, je vais rarement voir des informations sur une équipe de foot adverse. En tout cas, j'ai remarqué ça. Et puis, c'est rare que ça soit le cas. Donc, on privilégie énormément des informations qui confirment nos existences. Et plus nous partageons, plus nous aimons ce genre de contenu, plus les algorithmes des réseaux sociaux en fournissent. C'est un cercle vicieux. Donc, pour les partisans de Donald Trump, forcément, vous allez plus vous aimer des contenus de Donald Trump, plus vous allez avoir des informations généralement qui vont être fausses. En outre, les fake news exploitent souvent des émotions fortes, comme la colère ou la peur. C'est ce qu'utilise notamment Donald Trump pour sa politique, pour énormément d'informations. Ça incite à réagir et à partager plus rapidement sans prendre le temps de vérifier les faits. Et puis c'est un fait. Prenez un exemple d'une information, peu importe, qui vous touche personnellement. Généralement, même si vous saviez qu'il fallait vérifier les sources, avec l'émotion, vous n'allez peut-être pas forcément le vérifier. Donc ça, c'est ça, ça exploite énormément les émotions fortes. Selon une étude du Pew Research Center, plus de 60% des Américains qui partagent des articles sur les réseaux sociaux n'ont pas lu l'intégralité du contenu. Les outils face à cette marée d'informations, quelles sont les solutions? De nombreuses initiatives émergent pour contrer le phénomène. Les plateformes elles-mêmes, sous la pression des gouvernements, commencent à agir. Facebook, par exemple, a mis en place des partenariats avec des agences de vérification des faits comme Snopes pour étiqueter et réduire la visibilité des fausses informations. Cependant, ces efforts restent largement insuffisants. Comme l'indique Claire Wadi, spécialiste en information numérique, la guerre contre la désinformation ne peut pas être gagnée uniquement par des outils technologiques. Il s'agit également d'éduquer les citoyens, de renforcer leur esprit critique et de les rendre plus conscients des dangers de la désinformation. En venant jusqu'ici pour faire ma chronique, j'ai réfléchi à quelque chose qui me semblait essentiel. C'est qu'on parle souvent de la désinformation, on parle souvent que les citoyens n'ont plus confiance aux médias traditionnels, n'ont plus confiance aux journalistes, mais ça passerait surtout par éduquer les gens à regarder qu'est-ce que c'est le journalisme, parce qu'il y a journalisme et journaliste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il faut savoir aussi bien s'informer de plusieurs sources, de plusieurs médias, sans forcément passer son temps sur la télévision à regarder des talk shows, des chroniqueurs télé. Je pense notamment en France ou même aux États-Unis où c'est pas de la vraie information. Il faut pas juste se nourrir de ce genre de choses. L'éducation aux médias et à l'information joue et peuvent jouer un rôle crucial dans cette bataille. Les jeunes générations qui passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux doivent apprendre à analyser, à questionner les informations qu'ils consomment. En France, des initiatives comme le Parcours Citoyen visent à sensibiliser les lycéens à l'importance de vérifier leurs sources. Donc la lutte contre les fake news est l'affaire de toutes et tous. Il est essentiel de comprendre que la désinformation ne menace pas seulement les individus, mais l'ensemble de la société et en particulier nos systèmes démocratiques. On peut repenser encore à Trump, j'en parle beaucoup, mais c'est clairement la menace. Alors que les élections américaines 2024 approchent, nous devons redoubler de vigilance face aux informations que nous consommons et partageons, parce qu'une démocratie bien informée est une démocratie plus forte. Oui.
Ouais, j'allais dire, tu sais, c'est une chose de dire oui, j'ai plus confiance dans les médias, je fais plus confiance aux journalistes parce que leur job, c'est, tu sais, comme c'est la course à l'information, c'est d'aller décribiliser d'autres personnes. Mais faut, c'est comme tu dis, il faut faire la différence. Puis, genre, nous, on est journalistes, on est là pour apporter l'information. Mais le rôle des lecteurs, c'est d'aller chercher la vraie information, c'est d'aller, c'est de multiplier leurs sources aussi, c'est d'aller regarder, puis lire différents formats, différents. Ça peut être, ouais, différents avis, prendre un sujet, mais regarder un reportage aussi, aller lire un article. Ça, c'est leur job. Et ouais. C'est pour ça que je trouve ça dommage, justement, de perdre toute l'attention des gens, surtout que, mettons, pour un article, une personne, elle va lire quoi? Les quatre premières lignes, puis après, elle aura la flemme de lire le reste. Je trouve ça dommage d'en arriver là, alors qu'il y a tellement de possibilités qui peuvent être faites. Puis c'est leur rôle de continuer.
C'est fou aussi parce que ben souvent, je vois aussi le AI contribuer à des fake news. Je sais pas si vous en avez vu, mais tu sais, justement, Donald Trump, j'en ai tellement vu. Puis souvent, c'est tellement choquant que les gens, comme le cerveau va juste réagir de façon « Oh mon Dieu », puis il va cliquer dessus, puis ça va devenir viral parce que l'algorithme, il prend pas en, justement, il prend pas en compte que c'est fake, puis il va juste le générer, puis le faire diffuser encore plus. Donc, ça devient problématique parce que, comme tu dis, ben c'est pas tout le monde qui s'informe, alors que ça devrait être vraiment, tu sais, ça devrait être mis de l'avant parce que sinon, ben en tant que société, la démocratie... C'est un
enjeu.
C'est un enjeu. Oui.
Donc, mais justement, les fake news, on va en venir. Mais c'est ça, pour conclure justement sur ce sujet, c'est vraiment important de s'informer. Informez-vous via plusieurs sources. En soi, tout le monde peut être journaliste, même sur les réseaux sociaux. Je veux dire, un simple citoyen peut être journaliste, peut vous dire des choses, mais il faut absolument vérifier. On peut s'informer via les réseaux sociaux, mais il faut s'informer via des bonnes sources, le confirmer avec des médias, parce que oui. Certains citoyens perdent confiance en médias, mais moi je pense que énormément de personnes perdent confiance dans les médias parce que on s'informe d'une certaine manière mal. Il faut juste éduquer les gens et éduquer la façon de... Moi j'ai aucune, personnellement, qu'une source d'information. J'en ai peut-être des dizaines, voire des quinzaines. Il faut juste éduquer la meilleure manière de s'informer. Puis je suis sûr que la démocratie, vraiment, moi, je pense que c'est en jeu sur certaines... Quand on voit que les politiques prennent ça, c'est une sorte de manière d'organiser leur campagne, etc. Ouais, je trouve que c'est dangereux. Mais justement, on va voir ça. Je vais vous faire un petit quiz sur les fake news, puis vous allez me dire si c'est des bonnes informations, de mauvaises informations. Je vais commencer par une information. Les vaccins sont efficaces à plus de 90% pour prévenir les formes graves du COVID-19. Est-ce que pour vous, c'est une vraie information ou c'est une fake news?
Je ne suis pas sûre.
C'est tellement précis, un pourcentage.
Je pense que oui.
Ouais,
je pense
que oui. Je dirais oui.
Plus.
Attends, oui, c'est une fake news ou oui, c'est une vraie nouvelle?
Non, oui, c'est une vraie nouvelle.
Ah, OK.
C'est une vraie nouvelle. C'est une vraie nouvelle. Celle-ci, c'est une vraie nouvelle. Ça paraissait...
Attention, on a notre titre de journaliste en jeu, là.
Mais oui, un point.
Après, il y a des fake news qui sont... très, très, très... On les voit, par exemple, comme le pape François qui soutient Donald Trump, ça, il faut quand même le vérifier. Mais, par exemple, là, je ne vais pas vous donner la réponse, mais les éoliennes causent le cancer. Est-ce que pour vous, c'est une fake news ou...
Fake news.
C'est une fake news. Bon, il y a des...
T'es vraiment... gentil avec nous, là.
Y a des... Je suis gentil, mais il y a des théories du complot aussi qui sont vraiment... vraiment, vraiment...
Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui croient à des théories de complot, des fois.
Ouais. Par exemple, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, etc. Ouais. Hillary Clinton, mais ça, c'est des vrais, fake news, j'en ai pas inventé. Hein. Hillary Clinton dirige un réseau de trafic d'enfants dans une pizzeria.
Mais j'allais vu ça, ouais. J'allais vu.
C'est grave.
Bill Gates veut implanter des puces dans les vaccins de COVID-19. Les vaccins causent l'autisme, etc. Mais ça, c'est des vrais fake news. Donc, vérifiez vos sources, c'est juste sur ça que je voulais conclure.
Il devrait avoir des restrictions au niveau de comme si tu donnes trop de fake news, tu sais, t'as une limitation de ce que tu peux poster.
Les réseaux sociaux devraient mettre ça en place.
Mais on dirait, on a eu plein de cours en plus là-dessus. Genre, tu sais, de toute façon, tout ce qui n'a pas de territoire, ce qui n'a pas de frontières, c'est impossible à limiter.
Non, mais tu sais, les oui, on manque de temps, mais c'est un sujet qui pourrait prendre une complète
émission.
Mais les médias, en plus, ils ont mis tellement de choses en place. Genre, mettons, maintenant, tu peux même faire sous forme de Tinder. Tu peux mettre ce que tu veux lire, ce que tu veux pas lire. Prenez 5 minutes le matin.
Mais c'est allez, ça, on dirait qu'on est tellement divertis tout le temps aussi. On est dans cette culture-là. C'est rendu dur d'être traditionnel puis lire les nouvelles.
En effet, c'est un sujet important à aborder, puis surtout de bien s'informer, surtout à rester à l'affût des élections dans 2 semaines, le mardi 5 novembre. Merci Tristan pour ton partage et à tous.
Puis je voulais juste rajouter que la semaine prochaine, on accueille Martin Fortin-Bouteau pour justement parler des élections américaines.
Oui, c'est vrai. On termine maintenant sur le top 5 de la semaine des nouvelles insolites avec Maina.
Écoutez. Écoutez, je pense que on parlait de médias, l'actualité part. Toutes les informations sont toujours en boucle, toutes les mêmes informations, vous les voyez partout sur les mêmes médias. Fait que je me suis dit, si on avait un peu de fun. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un top 5 d'actualités insolites que j'ai vu passer dans certains médias, mais c'est des articles qui n'ont pas été énormément lus. En top 5, cinquième position, nous avons Elon Musk offre $1 million chaque jour. Je pense que ça mérite sa cinquième place de toute façon à ce stade. Entre ses nouveaux robots ou alors les allégations qu'il a sur la plateforme X, on a l'habitude des comportements un peu aléatoires d'Elon Musk. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, cette fois, il propose d'offrir $1 million chaque jour pour une personne ayant signé sa pétition. Chaque jour et jusqu'au 5 novembre, les habitants vivant dans certains états décisifs des US et ayant signé la pétition d'Elon peuvent courir la chance de gagner ce $1 million par un tirage au sort, en fait. C'est une pétition qui avait été créée début octobre et proposait une contribution monétaire en échange d'un nouveau signataire. Le but étant de collecter un maximum de données, par exemple numéro de téléphone, adresse mail, suite aux signatures, afin de contacter les signataires et les mobiliser à voter en faveur de Trump lors des élections. En quatrième position, on a, vous l'avez sûrement vu passer ce matin, la Nouvelle-Zélande limite les câlins d'adieu, de revoir à l'aéroport de 3 minutes. Si je vous dis voyage, valise, vous me dites aéroport.
Voyons, c'est une dinguerie.
Que vous soyez la personne qui parte ou celle qui emmène la personne, l'élu au terminal qui va partir. On passe tous par ce moment difficile, celui de dire au revoir. Dieu sait que dire bye bye, c'est dur, c'est long. Eh bien, l'aéroport de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, il a récemment mis une nouvelle mesure en place. Il y a un panneau qui a été placé dans les zones de dépose minute, limitant les câlins d'adieu à 3 minutes. Sur le panneau, on peut lire, je vous fais la traduction, durée maximale des câlins, 3 minutes. Pour des adieux plus longs, veuillez utiliser le parking. Donc, c'est une nouvelle mesure qui a suscité quand même pas mal de réactions. Il y en a qui disent que c'est une mesure qui est totalement inhumaine. Pourquoi on devrait ajouter une restriction
La productivité à tout coup.
Mais en fait, je suis un peu partagée sur les
deux. Est-ce qu'il y a trop de gens
Mais c'est ça, parce que ça permet de fluidifier le trafic. Ouais. Mais c'est ça. Puis il y a d'autres personnes qui disent qu'au contraire, c'est cool parce que il y a certaines zones d'aéroport justement qui n'ont pas de zone. Ils ont juste des drop-off. T'as même pas une minute. Tu déposes la personne et c'est ciao. Que là, au moins, t'as 3 minutes. Mais le propriétaire de l'aéroport, il a quand même expliqué que t'auras pas d'amende, il n'y a pas de policier qui va faire la police des câlins de 3 minutes. Si vraiment les gens prennent plus de temps, ils vont les inviter à aller utiliser le parking. Mais c'est plus pour fluidifier le trafic.
Mais à Montréal, c'est un bon exemple, il n'y a pas de place non plus.
Ouais. Montréal, c'est mal fait.
3 minutes, c'est long quand même hein, pour un câlin, je sais pas.
Ouais, c'est ça. Moi, d'habitude, c'est 2 minutes.
Mais tu sais que ça va être triste anyway. Fait que de toute façon, allez, tu fais ton bisou, tu fais ton câlin, tu sais que tu vas pleurer dans la voiture. Alors autant dire au revoir. Si ma maman, elle m'écoute, elle va pas être contente. mais c'est ça. Puis, en troisième position, on a un nouvel emploi pour l'ancien président Donald Trump. Ah, vous l'avez vu passer sûrement. Qui l'aurait cru ? Le candidat en course pour son 2e mandat de président a mis les mains à la pâte hier midi. Donald Trump a fait un petit stop dans ses déplacements, dans sa campagne, dans un McDo en Philadelphie pour servir des frites et des commandes aux clients. Et si sa visite vous paraît étrange, et ben en fait, elle était bien réfléchie par le candidat qui peut maintenant ajouter cette expérience sur son CV, contrairement à son adversaire Kamala Harris qui aurait, elle, apparemment menti sur son expérience d'employée au McDonald's lorsqu'elle était étudiante. Elle l'a évoqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos de campagne ou de discours, mais à ce jour, aucune preuve n'a été trouvée pour prouver qu'elle aurait bel et bien travaillé dans cette enseigne. Alors, Donald Trump, il se moque ouvertement d'elle, en fait, en expliquant que lui, au moins, il aura travaillé 15 minutes de plus que Madame Harris. Une vidéo de lui en service a été publiée. On les voit, les clients émus, très contents de faire sa rencontre. Est-ce que vous imaginez, par exemple, vous allez chercher votre commande, puis un jour, vous voyez Monsieur Justin Trudeau ou n'importe quelle personnalité allant chercher votre burger?
Bah, apparemment, ils ont été triés sur le volet par les services secrets, et puis tu pouvais pas faire une commande. Ils te donnaient ce qu'ils te donnent. Donc, si t'as des frites, t'as des frites, et c'est ça.
Oh mon Dieu.
Ensuite, on progresse dans notre top. En numéro 2, promouvoir l'adoption de chiens en battant un record du monde. Mitchell Rudy, un amoureux des canins, bat le Guinness World Record en emmenant une meute de 38 chiens dans une balade d'environ 10 km. Donc le précédent record, c'était de 36 chiens et ça avait été établi à Gwaesan, en Corée du Sud. Le champion Rudy a déclaré que le but du défi était également de mettre de l'avant et promouvoir l'adoption des chiens qui ont été recueillis et fournis par un refuge, le refuge Korean K9. Il explique « Nous voulions faire quelque chose qui permette à ces chiens d'être les champions qu'ils sont, en espérant qu'ils trouvent rapidement une nouvelle petite maison. » J'ai vu les photos avec toute la petite meute, c'était vraiment
trop
très mignon.
Mais il gère 39 chiens? Genre ouais. C'est lui qui les...
Oui, oui. Oh, tiens, on laisse les 38 chiens en même temps. Ouais.
C'est possible.
Mais voyons. Faudrait mettre sur notre Instagram une photo de ça.
On pourrait mettre en story, ouais, on pourra vous partager les photos. Et ensuite, attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Dans la première place, on a un robot artiste peintre. À Reuters, à Londres, le robot artiste AIDA, un humanoïde doté d'intelligence artificielle, sera le premier robot à voir son tableau vendu aux enchères. Oui, oui. Son œuvre intitulée AI God, en français Dieu de l'IA, est un portrait de 2,2 mètres de haut du mathématicien et pionnier de l'IA, Alan Turing. Donc c'est une œuvre qui devrait rapporter entre 100 000 et 150 000 livres sterling,
oh, mon Dieu.
Ce qui fait à peu près 180 000 à 270 000 dollars canadiens. Une première mondiale dans le domaine de l'art. Je trouve ça quand même fou, parce que tu sais, il y a des gens qui se battent pour avoir leur place dans le monde de l'art, qui sont hyper talentueux. Et ben là, de laisser la place, en fait... ben là, après, ça va être vendu aux enchères pour une cause, etc. Je voulais pas m'attarder
au
là-dessus.
Au moins, mais quand même.
Je trouve ça quand même fou d'avoir, c'est comme un robot qui fait... En plus, la peinture, je l'ai devant mes yeux, c'est assez cocasse. C'est comme deux tableaux énormes.
Le pire, c'est que c'est beau.
Ouais, c'est ça.
C'est des tableaux noirs avec deux petites têtes.
Ça aussi, on va le partager sur notre Instagram.
Ouais,
comme ça, vous allez pouvoir voir un visuel.
Mm-hmm. Puis en plus, le robot, il porte une perruque. Enfin, c'est tout un mood.
Mais apparemment, même dans la musique, le AI est très performant. Là, mm-hmm. Ce qui est les arts. Mm.
La photo aussi. La photo, là, il y a tellement de AI qui est ajouté, puis qu'il n'y a même plus de Photoshop et tout ça à faire.
C'est fou.
Tu as cliqué sur ce que tu veux, puis ça le fait tout seul.
Non, dans tout, ouais. Moi, j'ai vu l'autre jour aussi dans l'architecture, tu donnes tes plans, tu donnes ce que tu veux, etc., à une intelligence artificielle. Puis, il te fait des modélisations 3D, 4D de ce que tu veux et tout. C'est impressionnant.
Ah, c'est tellement beau. Je suivais ça en pensant que c'était un vrai compte d'architecture, jusqu'à temps que je me rends compte que c'était l'intelligence artificielle, mais c'est tellement beau.
Ouais. Et puis ça prend 5 secondes à faire, quoi.
Ouais.
Donc c'est assez efficace.
En parlant d'IA, j'ai testé, je sais pas si vous avez vu la nouvelle mise à jour de ChatGPT. Maintenant, tu peux avoir l'application sur ton téléphone et tu peux lui parler sous forme d'appel.
Oh my god.
Non, mais vous comprenez pas. Moi, j'ai capoté.
C'est comme Siri,
non, mais
en fait.
Ouais, mais encore mieux que Siri. Pas mieux dans le sens, oh my god, allez l'utiliser. Mieux dans le sens, ça fait peur aussi. Tu peux lui demander d'imiter un accent marseillais. Tu peux lui demander d'imiter n'importe quel accent.
C'est vrai.
Puis c'est une vraie conversation. C'est fou. Mais en plus, on en parlait d'IA, là, il y a quelques semaines, etc. Mais vous imaginez,
c'est performant.
Tu vas dans une galerie d'art, puis là tu croises un robot avec sa perruque carrée, frange noire.
Qui t'explique
pourquoi. Je suis en train de vous décrire l'outfit que je vois sur la photo avec une petite salopette qui montre ses petits bras. En tout cas, mais c'est tout pour mon petit top d'aujourd'hui.
J'aime bien les gens sur Instagram qui disent, moi je veux pas que le IA remplace ma possibilité de faire de l'art. Je veux qu'il remplace tous les jobs un peu plates, aliénantes.
C'est ça qui est comme.
Mais oui, des moyens de mettre l'IA partout.
Ça change.
Tu sais, je veux qu'il lave ma vaisselle, là. Je veux pas qu'il peigne à ma place pendant que moi je lave la vaisselle.
En effet, c'est déjà bientôt l'heure de se quitter. Merci beaucoup, Maina, pour ton partage des 5 actualités insolites. Merci d'avoir été avec nous sur Bulle d'écoute. Mardi prochain, on aborde l'élection américaine et ses conséquences, la place des autistes dans le monde du travail et plus encore avec Maina à l'animation. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site du CISM.ca. On se dit à mardi prochain, même heure. Bye tout le monde!
Bye!
Bye. Bye.
Je pense que c'est pas grave.
Je pourrais mourir dans tes bras, faire tatouer sur mon cœur ton prénom.
plus beau de tes pigments se dissolverait librement. Je pourrais mourir dans tes bras. Je mourrais serré contre toi. Si on me laissait choisir ou m'allonger une dernière fois, je ferais mes derniers adieux aux constellations dans tes yeux. Serré contre toi. Pour toi, j'encapsulerai des âmes au creux d'un sablier étendu sur les dunes, demandant à la lune de figer nos ébats.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Milo.
Tu as quel âge, Milo?
2 ans.
Et qu'est-ce que tu voudrais faire, Milo?
Ça, de la radio.
Sur CISM, il n'y a pas d'âge pour commencer la radio. L'appel de projet de CISM pour l'hiver 2025, c'est en ce moment. Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de ta radio, envoie-nous ton démo et ton projet au plus tard le dimanche 3 novembre. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Pour plus d'infos, visite le cism893.ca à la section Implication.
Envie de passer à l'étape supérieure dans vos études? Vous songez à une maîtrise, un doctorat ou souhaitez explorer vos options? Rendez-vous le 27 octobre de 9h à 15h à l'espace Cycle supérieur des portes ouvertes de l'UDM. C'est l'occasion parfaite pour poser vos questions aux professeurs et aux étudiants. On vous attend dès 9h au pavillon 3200 Jean Briand.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Stop! Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est Victime qui viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe.
Beliveau alert! Moi, je suis petit Beliveau. Le 22 novembre 2024, Earth 2 au MTELUS. Première fois de ma vie. C'est que tu 20 points à l'MTELUS 22 novembre. C'est que tu 20 points à l'MTELUS 22 novembre.
I'm gonna poop my pants.
Vous faites des compositions originales en français ou en langue autochtone? Pour obtenir de la visibilité, gagner des prix, des bourses, faire des rencontres professionnelles et artistiques, il faut vivre l'expérience des Francouvertes. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous inscrire en ligne au francouverte.com. Les Francouvertes, le concours vitrine de la diversité musicale, présenté par SiriusXM.
Pourquoi j'ai choisi le Cégep du Vieux-Montréal? Parce que j'ai trouvé ma place dans un programme à la hauteur de mes ambitions. Pour son campus vert, en plein cœur de Montréal, facilement accessible en métro. Pour ses professeurs d'expérience qui ont à cœur mon bien-être et ma réussite. Je l'ai choisi parce que ses valeurs me parlent, me ressemblent. Le Cégep du Vieux-Montréal, un cégep ouvert d'esprit. Vivez vous aussi l'expérience CVM durant nos portes ouvertes le samedi 26 octobre de 13h à 16h.
Salut, c'est Sarah Toga, vous écoutez CISM.
Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place à tes côtés sont vacants. Les jeux sont ouverts, la chance nous reçoit. Comme si on était dû pour se perdre au même endroit.
Écoutez CISM 89.3 FM.